la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Le brief spécial.
Bonjour à tous. Imaginez le village gaulois d'Astérix. Vous voyez cette petite bourgade entourée de camps romains? C'est un peu cette impression-là qu'on a en ce moment en parlant de Bruxelles et de la fermeture du Carrefour Léonard. Une ville dont on a du mal à sortir. Au sud-est de la capitale, la Flandre a décidé de fermer le passage vers Waterloo, où circulent plus de 9000 véhicules par jour. Les autorités bruxelloises assurent ne pas avoir été informées. Des travaux sont indispensables pour renforcer la stabilité des tunnels, dans un sens comme dans l'autre. Le chantier pourrait durer jusqu'à l'automne. La Flandre tire-t-elle les ficelles de la circulation à Bruxelles? Et l'attractivité de la capitale est-elle compromise? C'est le sujet de notre brief spécial.
Un dossier chaud, décodé par l'écho.
Je suis Guillaume Cordeau et je reçois aujourd'hui Pauline de Glum, journaliste spécialiste des questions bruxelloises à l'écho, Antoine de Bormann, directeur général de Perspective Bruxelles, le centre d'expertise pour le développement de Bruxelles, ainsi que plusieurs acteurs de terrain. Tout le monde y va de sa petite phrase dans le landerneau politique pour commenter l'affaire. Pourtant, aucune solution ne semble émerger pour soulager les milliers d'automobilistes coincés dans les bouchons dès la sortie de Bruxelles, quartier Delta Hermann de Brou. Alors, pourquoi, Pauline, ce dossier cristallise-t-il autant de tensions?
Mais c'est toujours un peu le même émoi qui est suscité, on le remarque, quand on coupe des grands axes d'entrée de ville. Souvenez-vous du bois de la Corne, quand la ville de Bruxelles avait décidé unilatéralement pendant le Covid de le fermer aux voitures, ça avait aussi généré beaucoup de craintes. Depuis lors, la situation s'est normalisée avec quelques ajustements. On peut aussi repenser à la fermeture provisoire qui avait duré pas si longtemps que ça, hein, du viaduc Hermann de Brou, quand des faiblesses avaient été découvertes dans le béton. On était en 2017 et ça avait déclenché une telle fureur qu'on se demandait même si le ministre bruxellois en charge de la mobilité de l'époque, Pascal Smet, allait pouvoir tenir en place. Alors sur le pourquoi ça cristallise autant de tensions, je vais rester prudente, mais on constate en tout cas que le fait de devoir mener des travaux, de procéder à des fermetures pour des raisons de sécurité, c'est perçu quand même souvent comme de la mauvaise gestion. Alors c'est vrai, il y a parfois eu dans certains cas un manque d'investissement dans les infrastructures et ça peut générer des fermetures un peu soudaines, inopinées. Mais dans tous les cas, des travaux d'entretien, même s'ils sont menés à temps, ça génère des désagréments. Donc c'est pas forcément scandaleux, mais c'est quand même souvent perçu comme tel dans un pays où la navette automobile représente encore une part modale très importante pour des raisons assez diverses qui vont du système des voitures de fonction au manque d'alternatives efficaces.
Mais ces travaux pouvaient-ils être anticipés pour prévenir les automobilistes? La Flandre dit avoir prévenu Bruxelles Mobilité suffisamment à l'avance à travers des réunions. Peut-on savoir qui a fauté finalement?
Comme ce sont des travaux qui entraînent une grande colère, qui plus est en période électorale, on voit que chacun essaye de pointer des responsables. Dans un premier temps, tous les regards se sont tournés vers Lydia Peters, la ministre flamande de la mobilité, en disant qu'elle était montrée un peu light, que ce soit dans sa communication envers les localités concernées, le fait qu'il n'y ait pas un véritable plan d'accompagnement, donc on se compris des déviations, un renfort des transports publics. Et un bourgmestre bruxellois résumait assez bien le sentiment général en disant la Flandre traite l'un des plus grands nœuds autoroutiers du pays comme si c'était un simple carrefour de village. Bon, entre-temps, on a eu le temps quand même de consulter plusieurs documents, elle a eu le temps de s'expliquer et on comprend quand même que ce qui s'est passé pour la ministre flamande et son administration, c'est qu'ils sont confrontés à une situation d'urgence. C'est en menant des travaux qu'ils ont découvert des dégâts imprévus et donc la fermeture partielle du tunnel, elle s'impose pour des raisons de sécurité. Il y a même un rapport d'un agent de sécurité externe qui dit que normalement avec un tel niveau de sécurité, on devrait fermer complètement le tunnel.
Finalement, cette affaire révèle un problème plus grand, c'est que la communauté métropolitaine de Bruxelles, cet organisme de concertation transrégionale compétent en matière de mobilité, n'existe que sur papier.
Oui, donc la communauté métropolitaine de Bruxelles, c'est quelques lignes dans le cadre de la 6e réforme de l'État. Pour qu'elle existe concrètement, en fait, qu'on en fixe les modalités et l'objet de la concertation à mener, il faudrait des accords de coopération conclus entre les trois régions. Il n'y a jamais eu d'accord de coopération. Et c'est dommage parce qu'on le voit dans chacun des dossiers qu'on vient de citer. En fait, la mobilité souffre d'une vision régionaliste. Parce qu'on a une ministre bruxelloise qui s'occupe de la mobilité bruxelloise, ce qui est sa compétence, c'est pas un reproche, une ministre flamande qui s'occupe pareil de la mobilité flamande et ainsi de suite. Mais le citoyen qui habite dans la périphérie, qui travaille, qui scolarise ses enfants et autres à Bruxelles ou l'inverse, il ne vit pas les choses dans une logique institutionnelle. Donc le manque de liaison efficace en transport en commun entre Bruxelles et son hinterland, notamment sa périphérie directe, c'est une véritable absurdité.
Manque-t-on également d'alternatives pour fluidifier la circulation à tout moment à Bruxelles ?
Oui, c'est sans doute le cas. C'est pour ça que dès qu'on parle de ce sujet-là, on va parler du RER qui ne remplit pas ses promesses. Et puis sinon, on voit ces sociétés de transport public qui s'arrêtent trop souvent aux frontières régionales. Il y a quelques années, mais ça n'a pas dû changer beaucoup. J'avais fait le compte et j'avais trouvé qu'il y avait seulement 11 lignes de la STIB dont le terminus se situait en dehors des frontières donc de la région bruxelloise et parfois pour quelques centaines de mètres, alors que la ville, elle, ne s'arrête pas. On a eu des améliorations sur ce plan avec la mise en place du Brupass. Donc c'est ce fameux abonnement qui permet d'utiliser tous les opérateurs Tech, Delaine, STIB, SNCV dans un rayon de 11,5 km autour de Bruxelles. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Idéalement, je pense qu'on devrait avoir des investissements de la part des trois régions pour poursuivre en fait, des lignes de métro, des trambus qui sont existantes, mais donc les faire continuer vraiment dans la périphérie directe. Et puis après, oui, il faudra quand même aussi un changement des mentalités, parce que même si on crée ces alternatives et qu'elles sont efficaces un jour, ben, on a quand même un Belge qui est très attaché pour l'heure à ses déplacements en voiture.
Question subsidiaire, Pauline. Sait-on comment se positionne l'ANV à Bruxelles, qui dirige aussi le gouvernement flamand, et l'OpenVLD, le parti du Premier ministre, dont la ministre flamande de la mobilité fait partie?
Je n'ai pas eu vent d'une expression particulière, un nom de chef de l'ANV à Bruxelles. En ce qui concerne l'OpenVLD, bah, ils ont, eux, un ministre présent au sein du gouvernement bruxellois, donc c'est Sven Gatz. Et lui, visiblement, n'avait pas voulu valider la demande de l'ajout du point Carrefour-Léonard au Codeco, donc au comité de concertation.
Merci beaucoup, Pauline, d'être passée dans ce studio pour cet éclairage. Voyons à présent les conséquences pour le business de la fermeture, en particulier du Carrefour-Léonard. Mettre une heure pour faire une quinzaine de kilomètres, si vous circulez en voiture à Bruxelles aux heures de pointe, c'est plutôt fréquent. Ces embouteillages peuvent-ils ralentir le développement économique de la ville ou éroder son attractivité? C'est ce que nous allons voir à présent. D'abord avec Patrick Bissiari. Il est économiste à la Banque nationale de Belgique et co-auteur d'un article sur le sujet publié l'année dernière. Bonjour.
Bonjour.
Vous dites que la congestion d'une métropole peut pénaliser la croissance de l'emploi et la productivité. Est-ce le cas à Bruxelles? Quelle est sa situation?
Si on regarde même déjà à l'échelle de la Belgique, la région de Bruxelles-Capitale est une sorte de confetti. Il y a de nombreuses communes qui ont à elles seules une taille nettement plus importante. En Flandre, c'est le cas d'Anvers. Mais du côté wallon, il y a Tournai, Namur, et c'est aussi la région européenne avec la taille la plus réduite de toutes les régions d'Europe, au sens administratif du terme. Et du coup, avec une densité de population qui est extrême, ça peut être à la fois un élément favorable et un élément défavorable. Et puis, le manque de place, entre guillemets, peut inciter les entreprises à aller voir juste un peu plus loin. Et de fait, quand on observe des migrations d'entreprises, elles tendent à se faire dans le sens de la région de Bruxelles-Capitale vers sa périphérie la plus proche. D'abord, fatalement, dans le Brabant flamand, et puis dans le Brabant wallon. Et c'est un élément dont une étude plus récente que nous venons de publier sur la Wallonie a pu montrer, confirmer que le Brabant wallon a été la province la plus dynamique d'Europe occidentale sur une longue période, et ce, donc, depuis 1980, et même si on a mis le curseur plutôt depuis 1996 dans le cadre de l'étude que l'on avait développée.
Ce qui veut dire qu'économiquement, Bruxelles s'affaiblit.
Alors, la région de Bruxelles-Capitale, son PIB a continué à croître, mais très faiblement quand on le compare par rapport aux autres régions d'Europe et sur une période de 20 ou de 25 ans. Et donc, en cela, on peut se dire, oui, le niveau de départ du PIB par habitant était tel que ça aurait été difficile de croître de manière infinie. Par contre, dans la périphérie, là, on a un développement très important. Donc, ça veut dire que quelque part, on peut penser que il peut y avoir des intérêts à essayer de favoriser un développement d'infrastructures, une planification d'aménagement du territoire qui soit pensée à une échelle plus large que la seule région Bruxelles-Capitale. Et ça, c'est quelque chose que nous avons en particulier trouvé dans les études de l'OCDE, dont une étude récente qui a été publiée, mais qui a pointé l'intérêt de développer une métropole qui était prévue dans la sixième réforme de l'État, mais qui n'a pas été mise en œuvre, faute d'accords de coopération signés entre les différentes régions du pays.
Donc en fait, pour la fermeture du carrefour Léonard, il aurait dû y avoir une meilleure concertation entre les différentes entités impliquées, c'est ça ?
Alors, évidemment, nous, on ne va pas se prononcer sur est-ce qu'il y a eu concertation, comment elle s'est faite, et ce genre de choses, dans quelles conditions. Mais il se fait que quand on a examiné les conditions de succès et comment ça a marché dans d'autres métropoles qui ont été plus performantes que Bruxelles au cours des dernières années, on a constaté qu'un certain nombre d'entre elles, pour ne pas dire la plupart, avaient développé une institution métropolitaine.
Et on en revient à cette notion de communauté métropolitaine de Bruxelles qui ne fonctionne pas. Merci Patrick Bissiari. Je me tourne à présent vers vous Antoine de Bormann, directeur général de Perspective Bruxelles, centre d'expertise régionale. Vous qui avez un rôle de conseiller pour le développement économique de Bruxelles, vous appelez, j'imagine, à plus de concertation pour éviter un scénario comme on vient de le connaître.
Mais en fait, quand on regarde les villes européennes, chaque grande ville européenne est confrontée à cette question de la collaboration, de la coopération entre le centre et la périphérie. Et beaucoup de ces villes ont développé une gouvernance à l'échelle métropolitaine pour justement identifier comment est-ce que l'on aménage le territoire de la manière la plus cohérente possible, comment est-ce qu'on articule, par exemple, les mouvements de mobilité avec les endroits où se trouvent les emplois et où se trouvent les logements. Et donc, c'est évident que, en fait, ce type de coopération est nécessaire, est utile pour aussi répondre en fait aux différents défis auxquels sont confrontées les villes.
Est-ce que c'est la structure administrative de la Belgique qui pose problème?
On a parfois l'impression en fait qu'à Bruxelles, tous en fait les problèmes viennent de l'institutionnel, mais quand on regarde dans d'autres grandes villes européennes, cette question de la collaboration entre le centre et la périphérie, elle se pose également. C'est-à-dire que dans beaucoup de villes, il y a des limites administratives qui font qu'il y a une différence entre ce qui se passe dans la périphérie d'une ville et ce qui se passe dans son centre. Et après, c'est vrai qu'à Bruxelles, on est dans une configuration où ce genre de débat ne trouve que rarement une solution rationnelle. Mais il est évident qu'en fait, rationnellement, il faudrait qu'il une collaboration beaucoup plus forte sur l'aire urbaine métropolitaine bruxelloise. Donc le territoire de la région, c'est 162 km². Mais si on regarde l'aire urbaine, en fait, c'est-à-dire le continuum urbain qu'il y a entre le centre et la périphérie bruxelloise, on serait plutôt sur 430 km². Donc vous voyez que c'est une aire déjà beaucoup plus grande. On parle un peu de la zone RER ou ce type en fait, d'agrégat qui rassemble 3 millions d'habitants plutôt qu'un million d'eux au sein de la région. Et donc, oui, il y a toute une série de questions qui se posent à cette échelle. Là.
En attendant plus de concertation, comment la région lutte-t-elle pour préserver l'accessibilité aux quartiers d'entreprise encombrés ? Y a-t-il des solutions hormis la patience ?
Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, évidemment, la région bruxelloise, pour son activité économique, est fortement dépendante, évidemment, des travailleurs qui vont tous les jours travailler sur son territoire. Hein, environ la moitié des travailleurs actifs à Bruxelles viennent des deux autres régions. Mais en fait, cette interdépendance, elle existe aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, en fait, l'économie wallonne et flamande est fortement dépendante de l'activité économique qui se déroule à Bruxelles. Il y a d'ailleurs une étude, justement, de la Banque nationale également, qui a été faite spécifiquement sur cette question des interdépendances économiques. Et donc, on voit en fait que, quelles que soient les régions du pays, il y a toujours une articulation avec l'activité économique bruxelloise, pour différentes raisons, dont le fait qu'il y a évidemment beaucoup de sièges sociaux aussi qui sont situés à Bruxelles. Mais donc, ça veut dire que, en fait, c'est aussi dans l'intérêt des autres régions de veiller à ce que cette articulation fonctionne bien pour leur vitalité économique.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'attractivité de Bruxelles est menacée quand on voit le développement du télétravail ? Lorsqu'on habite en Wallonie, on se dit, on va peut-être rester un peu plus chez soi, ou avec le développement de hubs spécialisés régionaux.
Il y a en fait des effets qui peuvent jouer dans des sens divers. Il y a évidemment la question de savoir est-ce que les gens restent plus chez eux et donc sont moins actifs à Bruxelles par le télétravail. Mais il y a aussi un effet en fait inverse qui est que pour les grands pôles d'attractivité économique, le fait que le télétravail se soit beaucoup plus développé développée permet en fait d'attirer des gens aussi qui sont situés plus loin. Et donc en fait cette attractivité pourrait être renforcée par le fait que le télétravail peut être plus largement utilisé, et donc notamment, pour le dire concrètement, d'avoir des travailleurs qui sont situés à Lille ou dans ce type d'espace-là, mais qui sont actifs sur l'activité économique bruxelloise grâce au télétravail.
En tout cas, à Bruxelles, les entreprises qui sont à la sortie concernées par la fermeture du Carrefour Léonard suivent de près la situation. Écoutez Axel Kuborn, il est CEO et cofondateur de Silver Square, qui loue des espaces de bureaux. Il parie sur la flexibilité de ses clients.
À Zaventem, derrière l'IKEA, ou à Delta, à côté du Schereck, je pense que ces coworkings-là sont impactés par la difficulté de se déplacer en voiture aujourd'hui à Bruxelles avec les travaux sur le Carrefour. Donc oui, j'imagine qu'il y a un impact. Bon, c'est peut-être un impact dont bénéficiera Silver Square ou Villeneuve qu'on vient d'ouvrir. Les entreprises se battent déjà depuis des années maintenant, la sortie du Covid, pour faire revenir les travailleurs au bureau, pour défendre mieux la culture de leur entreprise, leur productivité, et rester fort et compétitif face aux autres pays. Alors c'est une tendance qui joue en notre faveur dans son ensemble, puisque la flexibilité, c'est la nature même de notre métier. On n'enferme pas les entreprises dans un bail de 3 à 6 ans. Donc nous, on est en train de développer un outil qui va permettre aux entreprises vraiment de payer as they use. Donc non plus prendre un abonnement par mois. Comme souvent les crises, elles précipitent l'innovation et on est en plein dedans.
Il y a aussi la grande librairie UOPC dans la zone. Elle a déjà dû déménager du centre-ville en 2007 pour des problèmes d'accessibilité. Aujourd'hui, son administrateur délégué Bernard Rumens s'inquiète. Nombreux sont ses clients qui viennent du Brabant wallon.
Quand je vois les plans de déviation, on risque d'avoir les quartiers complets qui sont engorgés. Je vois même des pistes alternatives qu'on propose qui renvoient sur des tronçons d'autoroute ou de l'avenue Turvuren qui sont à une bande. Alors je me demande bien ce que ça va résoudre. Inversement, il y aura certainement des heures où nous serons tout à fait et correctement accessibles. Et j'espère bien, parce que nous avons la difficulté économique que connaissent pas mal de librairies actuellement. Nous sommes un commerce de contact, de conseil, de proximité. Et donc, nous avons besoin naturellement d'un passage confortable. Mais l'avantage que nous avons, nous sommes au terminus de la ligne 5 du métro. Nous avons le tram 8 qui passe. On est bien desservis en transport en commun. Donc, les gens qui ont accès au transport en commun, il n'y aura vraiment pas de souci pour venir jusque chez nous. C'est clair.
Voilà quelques réactions d'entrepreneurs. Antoine de Bormann, question très ouverte, qu'en pensez-vous ?
Mais en fait, l'économie bruxelloise, c'est 95% des services. Et donc souvent des activités qui se réalisent en réalité dans des bureaux. Et si on regarde en fait l'évolution des espaces de bureaux, on voit qu'il y a plutôt aujourd'hui un recentrage qu'on observe depuis une dizaine d'années sur les quartiers centraux bien desservis en transport en commun. Donc ça veut dire qu'il y a une série d'entreprises qui ont intégré aussi une évolution dans les modes de mobilité et considéré qu'en réalité, être près de l'autoroute, c'est pas nécessairement le plus intéressant pour leurs collaborateurs, mais de plutôt se mettre à proximité d'une gare ou d'un endroit qui est bien desservi en transport en commun. Donc on voit qu'il y a des évolutions par rapport à ça. Après, l'autre aspect, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées à Bruxelles chaque année. Certaines d'entre elles grandissent et à un moment donné, elles manquent de place pour pouvoir s'établir en région bruxelloise. Et donc, elles viennent plutôt migrer, juste à proximité de la région et en dehors de ses limites administratives. Voilà, on voit qu'en fait, il y a ce mouvement assez naturel des entreprises de participer aussi à une forme d'étalement urbain, c'est-à-dire en fait que la ville s'agrandit dans sa périphérie pour répondre à ses besoins de place pour le développement des activités économiques.
Merci Antoine de Bormann d'avoir été avec nous et merci à tous de nous avoir suivis. Voici à présent ce qu'il faut retenir de cet épisode. Tout d'abord que la ministre flamande de la mobilité n'avait visiblement pas d'autre choix que de fermer le Carrefour Léonard. Ensuite, qu'une planification d'aménagement du territoire est nécessaire au-delà des frontières de la région Bruxelles-Capitale. Enfin, que l'économie wallonne et flamande est dépendante de Bruxelles et donc qu'il faut travailler ensemble. Très bonne journée à tous, à très vite.
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.